Les informations Ramambaï.
Jean-Marie Guénon, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix en séjour de près de 2 semaines au Congo-Kinshasa. Cette visite lui permettra de se rendre compte personnellement de l'avancement du processus électoral en cours en RDC. Environ 20 000 personnes, c'est le nombre des déplacés qui ont jeté dans la rue les combats entre FDLR et FRDC. Ces derniers mois, dans le territoire de Calais, ces déplacés sont dans une situation de grande précarité. Dans ce journal, vous suivrez le cri d'alarme de Guiliano Vascotto, responsable du CICR Bukavu. À Goma, les responsables de toutes les communautés ethniques du Nord Kivu restent partagés sur l'initiative de relancer le Barza intercommunautaire. Lors d'une réunion hier à Goma, 3 communautés sur les 9 se sont opposées à la relance de ce Barza. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chef du département de maintien de la paix de l'ONU est à Kinshasa depuis hier soir. Jean-Marie Guénon vient se rendre compte du travail accompli et tout ce qui reste à faire sur le processus électoral en RDC. Cela dans l'optique de continuer à mobiliser la communauté internationale dès son retour à New York, a-t-il souligné au cours du point de presse tenu à son arrivée à l'aéroport international de N'Djili. Au cours de ce séjour de 2 semaines, Jean-Marie Guénon rencontrera à Kinshasa le président Joseph Kabila et d'autres responsables politiques avant de se rendre à l'est du pays et à Lubumbashi. Le chef du département de maintien de la paix de l'ONU est au micro de Lievin Bwinga.
Le message que j'apporte, c'est à la fois un message de soutien et un appel à l'engagement de tous les Congolais dans la reconstruction du pays. Le pays a traversé des épreuves très difficiles. Il a été affaibli par la guerre. Aujourd'hui, le pays a besoin de toutes les bonnes volontés sans exception, pour se redresser. Donc je crois que dans cette période électorale, il sera important que les Congolais s'unissent autour du processus électoral dans la reconstruction, dans la consolidation de l'État. La République démocratique du Congo a besoin d'un État solide, qui protège la population, qui assure les services publics. La communauté internationale est engagée dans cet effort auprès des Congolais, mais il est évident que c'est le peuple congolais, c'est l'État congolais qui assume la direction et la responsabilité de tout cela. Et donc je crois que mon message est simple, unité, coopération pour les élections et engagement pour la reconstruction de l'État.
Jean-Marie Guénon, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, était au micro de Lievin Mbwinga. Clôture hier lundi de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, cette séance qui a vu l'entrée du président de la Chambre basse être ovationnée par les députés, a consisté à l'adoption de 11 projets de loi portant adhésion de la RDC aux conventions internationales sur la criminalité, la défense nationale, le terrorisme et le droit de l'homme. Les ministres de la Défense, de la Justice et le vice-ministre aux Affaires étrangères ont également pris part à cette séance, soulignant que ces textes de loi constituent pour le pays des instruments de défense ou d'attaque devant les institutions judiciaires internationales. Le ministre de la Justice, Honorius Kissimbangoy, a invité les députés à considérer ces lois avec beaucoup de précautions. Des propos recueillis par René Capita.
Je souhaiterais vous dire qu'il s'agit des projets de loi autorisant l'adhésion. Ce sont des textes que vous avez l'habitude de manipuler et d'adopter. Mais il faudra savoir que souvent nous entrons dans ce genre de textes sans beaucoup de précautions. Vous vous rappelez que dernièrement nous avons eu des difficultés énormes pour convaincre la Cour internationale de justice pour le Rwanda, qui a toujours marqué des réserves. Permettez-moi de citer ce pays parce que c'est contre lequel nous étions en conflit ouvert. Ce pays a toujours regardé attentivement le genre de textes qu'on lui soumet. Et plusieurs fois, il a eu à soumettre ces textes à des réserves d'usage. C'est la raison pour laquelle, que ça ne soit pas des formalités, il faudra absolument que ceux qui s'expriment au nom du peuple regardent attentivement les textes auxquels on est soumis. Parce que c'est à partir de ces textes que nous sommes peut-être dans les instances internationales appelés à nous défendre ou à attaquer. Tous ces accords et traités doivent être examinés attentivement.
Sachez que les différentes voies d'accès au palais du peuple sont restées barricadées hier par les unités de la police intégrée UPI qui fouillaient de manière systématique tous ceux qui venaient assister à la plénière. Des combats entre FDLR et FRDC dans le territoire de Calais au sud Kivu ont provoqué le déplacement d'environ 20 000 personnes. Déclaration hier du responsable du comité international de la Croix-Rouge Bukavu. Selon Guiliano Vascotto, ces déplacés ont quitté la localité de Ziralo et ses environs. Ils ont pris la direction du lac Kivu. Le responsable du CICR Bukavu estime que ces déplacés sont dans une situation de grande précarité. On l'écoute au micro de Delphine Amuto.
Il y a beaucoup de besoins. Le CICR se cantonnera à une assistance en biens essentiels de ménage. Néanmoins, avec la coordination humanitaire, toute une coordination est en train de se mettre en place afin de répondre à d'autres besoins, notamment des besoins médicaux et des besoins en nourriture. La situation de ces personnes déplacées, vous vous l'imaginez, est plus que précaire. Mis à part le fait qu'ils sont en train de rater une saison agricole, ils ont des problèmes immédiats de nourriture aujourd'hui, d'où la nécessité de coordonner notre assistance. Il n'est pas dans notre intention d'organiser un grand camp, par exemple. On va laisser la situation telle qu'elle et faire appel aussi à la solidarité des Sud-Kivusiens, des gens qui habitent ces zones et qui, par chance, par bonheur, ont pu accueillir ces déplacés. Cette assistance que va faire le CICR est coordonnée aussi avec la 10e région militaire afin que tout le monde soit bien informé.
À Pugna, dans le Maniema, les forces armées de la RDC se sont affrontées contre les combattants Simba regroupés à Mungele, dans le territoire de Lubutu. Ces combats se sont déroulés à la carrière de diamant d'Obanjo. À la base du conflit, affirme l'administrateur de Pugna, le contrôle de la production de diamants. Toutefois, les premières dispositions militaires ont été prises par le commandant de la 71e brigade qui commande les deux entités militaires. Ce dernier envisage de regrouper les Simba à Lubutu en vue de les acheminer à Kindu pour attendre le brassage. Sadala Chabani.
Sur demande des responsables de cette carrière de diamants, que plus de 500 combattants Simba, commandés par le colonel Mandro, ont attaqué le peloton FRDC positionné dans la carrière de diamants de Ombadjo en territoire de Pugna. Laura Kampulumputu, administrateur du territoire de Pugna, qui confirme cette information, donne les raisons qui sont à la base des conflits.
Il y a eu des problèmes entre les militaires de Pugna et les Simba. Ce sont chamaïens. Les Simba ont racheté 4 armes de nos militaires de l'autre côté, sont partis avec. Ils se sont disputés les graviers. Vous savez, dans les chantiers de diamants, comment les militaires se précipitent sur les graviers et sur les bitins. C'était ça la pomme de discorde.
De ce côté, le commandant de la 71e brigade des FARDC, qui contrôle le territoire de Pugna et de Lubutu, a annoncé que les armes importées par les Simba Mungele en territoire de Lubutu ont été récupérées par les capitaines des FARDC sur place. Le major Serge Rutagaba, qui reconnaissait la présence des éléments Simba en territoire de Lubutu, annonce les dispositions militaires prises pour éviter les répétitions de tels incidents.
Nous avons pris des dispositions. Ils sont maintenant tous à Lubutu et d'autres continuent à venir puisque on leur a envoyé leurs soldes, ils sont payés et dès demain ou après-demain, nous allons les conduire jusqu'au centre de regroupement.
La société civile locale, qui se réjouit de ces premières mesures sécuritaires, demande en plus que les positions militaires dans les carrières des diamants soient remplacées par celles de la police nationale. Kindu, Sadala Chabani, Radio Okapi.
À Lissala, dans le district de la Mongala, province de l'Équateur, les élèves ex-enfants associés aux troupes armées se disent abandonnés. Rien ne se fait pour la prise en charge de leur scolarité après avoir été démobilisés par l'ONG AP, partenaire de la CONADER. Ils manquent des cahiers, des uniformes et ne sont pas en mesure de payer les frais scolaires exigés par l'école. L'ONG AP ne reconnaît pas cependant avoir promis à ses ex-soldats de prendre en charge leurs études. Reportage à Skin Zigbia.
Ils sont des dizaines, ces élèves ex-enfants soldats, qui se plaignent de leurs conditions d'études depuis qu'ils ont repris leurs études. Ils manquent le nécessaire pour suivre leurs enseignements. Selon eux, l'ONG APEE et la CONADER avaient promis de supporter leur scolarité. Mais depuis leur démobilisation, rien ne s'est fait. Écoutons leurs plaintes. Depuis que nous avons été démobilisés, nous ne recevons rien de ce qui nous a été promis. Nous étudions dans des conditions difficiles. Nous avons des difficultés liées au paiement des formulaires d'examen d'État, les uniformes, le cahier, les stylos, les chaussures pour élèves. Dans la salle, les uns sont propres, mais nous, nous sommes sales. Qu'est-ce qui est prévu pour nous? L'ONG APEE réplique qu'il n'a rien promis à ses ex-enfants soldats. Pour cet organisme, il revient aux parents de prendre en charge la scolarité de leurs enfants comme ils le font pour les autres enfants. De son côté, la CONADER annonce que le gouvernement a prévu pour cette année un programme de prise en charge scolaire des ex-enfants soldats qui ont repris leurs études. Explication de Jean-Claude Colli, coordonnateur provincial de la CONADER.
La
Au moment où nous parlons, Conader et le gouvernement se sont convenus pour supporter rien que les études des ex-enfants soldats qui étudient dans des écoles officielles. C'est un programme que nous venons de commencer cette année. Mais en attendant que ce programme du gouvernement soit appliqué dans la Mongala, certains élèves ex-enfants soldats de l'Isala abandonnent les études pour la rue. D'autres, par contre, menacent de se révolter si à leurs revendications aucune suite n'est donnée. De Mbanaka à Skazigatayoro, Radio Okapi.
Relance du Barza intercommunautaire, les responsables de toutes les communautés ethniques du Nord Kivu restent partagés. Lors d'une rencontre hier lundi à Goma, 3 communautés sur les 9 se sont opposées à la relance de cette structure dans laquelle toutes les ethnies du Nord Kivu réunies tranchaient leurs différends. Les 6 autres communautés sont cependant pour la réhabilitation de ce cadre de concertation et veulent que cela soit fait au plus tard vendredi prochain. Jean-Paul Basila.
Le représentant des communautés Nyanga, Kano, Hutu, Tutsi, Kumu et Mbuti sont tous d'accord sur la réhabilitation du Barza comme cadre permanent des concertations pour le règlement des conflits entre communautés. Ils ont émis les vœux que ce cadre soit mis sur pied d'ici vendredi prochain. Un souhait auquel s'opposent les responsables des communautés Nandé, Hunde et Tembo. Ce dernier pose de préalable, entre autres, la réhabilitation de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Écoutons les explications du représentant de la communauté Tembo. Une bonne partie de la province du Nord Kivu, nous vivons, échappe encore au contrôle du gouvernement central. Comment voulez-vous que nous puissions relancer le Barza et que nous puissions nous exprimer librement? Ce Barza que nous allons relancer ne fera pas longtemps car beaucoup de gens vont y adhérer avec hypocrisie. C'est ainsi que nous voulons d'abord que les gouvernement ait réellement les contrôles de cette partie du pays. Comment allons-nous nous investir en toute liberté pendant que tout échappe au contrôle du gouvernement ici? Durant la même rencontre, Mgr Kuyendondo a fait part de son désaccord vis-à-vis de ses propos. Il a indiqué qu'il ne pense pas que le Nord Kivu échappait encore au contrôle du gouvernement de transition. Des Goma, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Du nouveau, dans la promotion du commerce extérieur en RDC, l'Office de gestion de fret maritime a procédé hier lundi au lancement et à la vulgarisation du système ferry, système qui consiste à traiter le fret en République démocratique du Congo par Internet. Son objectif, endiguer la fraude et maximiser les recettes de l'État. L'administrateur délégué général de l'OGFREM, Emile Ngoy, a présidé la cérémonie à l'hôtel Memling à Kinshasa en présence des ministres des Transports et de la Santé. Plus d'explications avec lui au micro de Lievin Bwinga.
La ferry, c'est un produit qui permet justement de suivre la traçabilité des marchandises. C'est-à-dire, toute marchandise congolaise qui est embarquée dans n'importe quel coin du monde, dans n'importe quel port du monde, avant même que la marchandise puisse quitter ce port-là, on connaît les contenus de la marchandise. On sait identifier quelle est l'origine de cette marchandise. Le premier avantage, c'est que pour les opérateurs économiques, qu'ils soient à l'intérieur, un opérateur économique qui a monnaie dite, dont la marchandise doit arriver au port de Mombasa, de Dar es Salaam ou de Matadi, souvent ils quittent un mois à l'avance ou un mois en retard, ils viennent, la machine est déjà arrivée. Là, au moins avant de quitter, il sait savoir à quelle date arrive précisément sa marchandise. Et avec la ferry également, l'État, ça lui permet de résorber justement un volume important de la fraude, ce qui permet de mobiliser justement les recettes.
Sachez que ce projet a été réalisé grâce au concours du Bureau maritime international. Dans le volet santé, notez l'ouverture dans les tout prochains jours d'un cabinet dentaire à l'hôpital général de la ville de Bandundu. Cet hôpital vient de recevoir un équipement spécialisé des soins dentaires. Le matériel a été remis par le vice-gouverneur du Bandundu, chargé de l'écofine, le docteur Sekele, qui était accompagné de 2 chirurgiens. On écoute le médecin directeur de l'hôpital général de Bandunduville, le docteur Augustin Kayeye, au micro de Berry Franklin Luchaka.
Nous, au niveau de l'hôpital, on était toutefois tenté de transférer les malades à Kinshasa pour les problèmes presque banaux des soins dentaires. Et pour la population, c'est vraiment une grande solution parce que ici, pour les soins dentaires qu'ils font à Kinshasa, il faut au moins $200 de billets d'avion aller-retour. Les séjours à qui la vie à qui est très compliqué, là, tout le monde n'a pas les moyens, des fois les gens ne savent pas partir. Donc, c'est vraiment un soulagement pour la population. Maintenant, tout le monde doit trouver son compte vraiment. On va adapter la situation avec le pouvoir d'achat de la population pour permettre à tout le monde vraiment d'accéder à ces soins dentaires. Bon, de l'autre côté aussi, c'est quand même une source de revenus pour l'hôpital. Ça va nous permettre un peu de maximiser nos recettes et de faire face à d'autres dépenses qu'on a au niveau de l'hôpital.
7h15 à Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Le prochain en français, 8h, heure de Kinshasa.